Alors, bonjour à tous. Je ne sais pas si la problématique a été réglée. Il y a quelques instants, je suis rentré en ligne, mais le volume ne fonctionnait pas. Donc, on va espérer que maintenant ça fonctionne. Je vais faire un petit test pour voir. Oui, il semble que maintenant ça fonctionne. Donc, bienvenue, bienvenue à tous et j'espère qu'on n'aura pas perdu trop de monde durant ce petit contretemps. Alors, nous voici à une troisième leçon sur la foi à travers le personnage de Samuel. On est en train de compléter notre série d'enseignements sur Hébreux au chapitre 11 et particulièrement depuis une dizaine de jours. Le passage dans le verset 32, et puis bien entendu le passage connexe pour aujourd'hui dans 1 Samuel au chapitre 3, et c'est essentiellement les versets 19 à 21 qu'on va méditer aujourd'hui, mais on va bien entendu prendre le temps de relire l'ensemble de ce passage dans 1 Samuel au chapitre 3. Alors, on va prier tout d'abord, puis on va faire la lecture du jour. Alors merci Seigneur pour cette occasion que nous avons de nous arrêter en début de journée pour étudier ta parole, être nourri, transformé, mis au défi par elle. On te demande Seigneur d'étendre ta main, de nous toucher, d'ouvrir notre entendement et en toute chose Seigneur que ta grâce nous soit accordée afin de bien saisir ton cœur, de bien saisir ta pensée et que nous puissions avoir cette sagesse de nous y adapter, de nous y conformer, afin que quoi que nous fassions, quoi que nous disions, quoi que nous soyons, où que nous soyons, quoi que soient les choses vers lesquelles nous aspirions, que tout cela, Seigneur, soit fait dans ta parfaite et complète volonté. Nous t'avons prié dans le précieux et glorieux nom de Jésus, et tout le monde peut dire Amen. Alors le verset principal, bien entendu, dans Hébreux 11, le verset 32. Et que dirais-je encore, car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephté, de David, de Samuel et des prophètes. Et aujourd'hui, bien entendu, on complète notre temps sur le prophète Samuel. Je vous invite à ouvrir vos Bibles aussi dans 1 Samuel, le livre de 1 Samuel au chapitre 3, et on va lire du verset 1 à 21, et à la fin, je relirai le verset 19, 20 et 21. Pour bien entrer dans le sujet du jour. Alors, la Bible nous dit dans 1 Samuel 3, le verset 1, Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. Et en ce même temps, Élie, qui commençait à avoir les yeux troubles, ne pouvait plus voir. Il était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. Et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel, où était l'arche de Dieu. Alors l'Éternel appela Samuel. Il répondit, Me voici. Et il courut vers Élie et dit, Me voici car tu m'as appelé. Élie répondit, Je n'ai point appelé, retourne te coucher. Et il alla se coucher. L'Éternel appela de nouveau Samuel, et Samuel se leva, alla vers Élie. Et il dit, Me voici car tu m'as appelé. Élie répondit, Je n'ai point appelé mon fils, retourne te coucher. Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel, et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la troisième fois. Et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, Me voici car tu m'as appelé. Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Et il dit à Samuel, Va, couche-toi. Et si l'on t'appelle, tu diras, Par l'Éternel, car ton serviteur écoute. Et Samuel alla se coucher à sa place. L'Éternel vint, se présenta, et il appela comme les autres fois, Samuel, Samuel. Et Samuel répondit, Parle, car ton serviteur écoute. Alors l'Éternel dit à Samuel, Voici ce que je vais faire en Israël, une chose qui étourdira les oreilles de quiconque l'entendra. En ce jour, j'accomplirai sur Élie tout ce que j'ai prononcé contre sa maison. Je commencerai et j'achèverai. Je lui ai déclaré que je veux punir sa maison à perpétuité à cause du crime dont il a connaissance et par lequel ses fils se sont rendus méprisables, sans qu'il les ait réprimés. C'est pourquoi je jure à la maison d'Élie que jamais le crime de la maison d'Élie ne sera expié, ni par des sacrifices, ni par des offrandes. » Samuel resta couché jusqu'au matin, puis il ouvrit les portes de la maison de l'Éternel. Samuel craignait de raconter la vision à Élie. Mais Élie appela Samuel et dit, « Samuel, mon fils. » Il répondit, « Me voici. » Et Élie dit, « Quelle est la parole que t'a adressée l'Éternel? Ne me cache rien. Que Dieu te traite dans toute sa rigueur si tu me caches quelque chose de tout ce qu'il t'a dit. » Samuel lui raconta tout, sans rien cacher. Et Élie dit, « C'est l'Éternel, qu'il fasse ce qui lui semblera bon. » Samuel grandissait, l'Éternel était avec lui. Il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. Tout Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba, reconnut que Samuel était établi prophète de l'Éternel. L'Éternel continuait à apparaître dans Silo, car l'Éternel se révélait à Samuel dans Silo, par la parole de l'Éternel. Alors je relis pour vous les versets 19, 20 et 21. Samuel grandissait, l'Éternel était avec lui, et il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. Tout Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba, reconnut que Samuel était établi prophète de l'Éternel. L'Éternel continuait à apparaître dans Silo, car l'Éternel se révélait à Samuel dans Silo, par la parole de l'Éternel. Alors que Dieu bénisse sa parole ce matin. Jusqu'à présent, on a vu 8 points dans ce passage du verset 1 au verset 21. On a vu 8 points. Aujourd'hui, on va voir les 4 derniers. Donc, on a vu tout d'abord qu'en raison de notre foi, nous devons être et demeurer serviteurs. En raison de notre foi, nous devons nous soumettre à la couverture, à la chaîne de commandement que Dieu établit au-dessus de nous. En raison de notre foi, nous devons être en constante disponibilité pour servir le Seigneur. En raison de notre foi, nous devons être en recherche constante de la présence de Dieu. Ça, on a vu ça mardi. Hier, mercredi, on a étudié qu'en raison de notre foi, nous devons considérer que nous avons un besoin de toujours connaître davantage notre Seigneur. En raison de notre foi, nous sommes et nous devons demeurer enseignables. En raison de notre foi, nous devons répondre favorablement et promptement à Dieu. Et en raison de notre foi, finalement, lorsque Dieu nous parle, nous écoutons et nous appliquons sa parole. Et aujourd'hui, donc, on voit les versets 19 à 21. Juste pour spécifier un peu, on parle ici de Silo que l'Éternel apparaissait à Samuel ou se révélait à Samuel à Silo et bien entendu pas à Jérusalem. Alors qu'est-ce que Silo? Silo veut dire lieu de repos. C'était une ville du territoire d'Éphraïm et non pas Jérusalem. Donc une ville du territoire d'Éphraïm qui a été pendant un certain temps le siège temporaire de l'Arche de l'Alliance et du Tabernacle, avant que ceux-ci voient leur établissement à Jérusalem et la construction finale du Temple de Jérusalem. Le prophète Samuel a grandi à Silo et y a exercé la majeure partie de son ministère. Alors voilà pour Silo. Revenons maintenant au verset. Le verset 19 commence en disant « Samuel grandissait, l'Éternel était avec lui. » Samuel grandissait, l'Éternel était avec lui. Le terme grandir, c'est le terme gadal. Gadal, G-A-D-A-L, toujours en hébreu, bien entendu, puisqu'on est dans l'Ancien Testament. Grandir, gadal, G-A-D-A-L, qui veut dire devenir puissant, être magnifié et prendre du grade. C'est pas simplement grandir physiquement, mais c'est aussi que par rapport à ce que Samuel était au début de son service et ce que Samuel va devenir au fur et à mesure qu'il va servir. On voit qu'il va prendre plus de puissance, qu'il va prendre plus de grades et obtenir aussi plus de respect dans le service qu'il accomplit. À un tel point où pour plusieurs judaïques, pour plusieurs personnes d'origine juive ou de confession judaïque, Samuel va être considéré comme le plus grand des prophètes. On sait, la Bible nous dit que le plus grand des prophètes aura été Jean-Baptiste. Toutefois, Jean-Baptiste est dans le Nouveau Testament, donc livre que la foi juive ne reconnaît pas, puisque les Juifs s'arrêtent donc à l'Ancien Testament. S'ils reconnaissaient Jean-Baptiste comme le plus grand des prophètes qu'il y a eu, ils seraient obligés de reconnaître aussi l'enseignement de Jean-Baptiste qui va dire à propos de Jésus que lui-même n'est pas digne de délier les lacets de ses sandales et que Jésus est effectivement fils de Dieu, agneau de Dieu. Donc si les Juifs reconnaissaient Jean-Baptiste comme le plus grand prophète, tel que le Nouveau Testament l'enseigne, bien, ils seraient obligés de reconnaître aussi l'ensemble du message du Nouveau Testament. Donc pour les judaïques, pour les juifs de foi ou de religion, le plus grand prophète ou un des plus grands prophètes, c'est Samuel. Par contre, Samuel n'a pas toujours été ce grand prophète. Il a commencé comme un simple gamin qui servait au niveau du temple, au niveau du tabernacle, auprès du sacrificateur Élie. Et comme on l'a vu à travers les 2 journées que nous avons passées sur ce sujet, on a vu qu'avant cette première rencontre où l'Éternel va interpeller Samuel en disant Samuel, Samuel, et que Samuel va se lever 3 fois de façon erronée, se rendant jusqu'à Élie, pensant que c'est Élie qui l'a appelé, mais que c'est l'Éternel. Et une 4e fois, Dieu va encore l'interpeller. Et là, il va répondre à la suggestion d'Élie, parle car ton serviteur écoute. Ça, c'est la première rencontre entre Samuel et l'Éternel. Et par la suite, Dieu va l'utiliser, Dieu va se révéler à lui, Dieu va lui parler, Dieu va lui faire connaître sa pensée. Et en raison de cela, Samuel va grandir physiquement parce qu'il va passer du statut d'enfant à jeune homme et de jeune homme à adulte et à homme fait, à homme mature, voire même à vieillard, mais il va aussi grandir spirituellement, il va aussi grandir dans la portée de son ministère. Donc en raison de notre foi, nous devons, à l'instar de Samuel, comme premier point aujourd'hui, être en recherche d'un constant progrès. On ne devrait pas être satisfait de la stature que nous avons aujourd'hui. Assurément, si on la compare avec celle d'hier, on espère qu'il y a amélioration, qu'il y a progrès. Mais la Bible nous dit que nous allons de progrès en progrès, de gloire en gloire. Aller de progrès en progrès veut dire que le niveau que j'ai atteint aujourd'hui est supérieur à celui d'hier, qui était supérieur à celui d'avant-hier. Par contre, si je continue le processus d'aller de progrès en progrès, ça veut donc dire aussi que mon état d'aujourd'hui devrait être moins élevé que celui d'hier, ou devrait ne pas être égal au minimum à celui d'hier, et encore pire, ne devrait pas être supérieur à celui de demain, parce que cela voudrait dire que c'est une régression. Si nous allons de progrès en progrès, ça veut donc dire qu'aujourd'hui, je suis moins élevé, je suis moins connaissant, je suis moins expérimenté, je suis moins puissant que ce que je pourrais être demain. Samuel, durant toute sa vie, va aller de gloire en gloire et de progrès en progrès. En raison de sa foi, il ne va pas se contenter de l'état qu'il connaît aujourd'hui. Il ne va pas se contenter de cette première rencontre initiale avec l'Éternel, mais il va progresser, il va faire preuve d'un constant progrès et d'une attitude qui recherche le progrès constant ou permanent. Et ça devrait être donc notre raison d'être aussi. Ne pas se satisfaire des acquis d'hier, ne pas se satisfaire de l'état d'aujourd'hui, mais prôner, chercher, viser un progrès par rapport à demain, par rapport à l'avenir. Premier point, donc, en raison de ma foi, je cherche à être en constant progrès. Le verset ne termine pas ainsi. Il continue en disant « Et il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. Samuel grandissait, l'Éternel était avec lui, et il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. » Ça veut donc dire que Samuel, aucune parole qui venait de Dieu, puisque là on parle effectivement des paroles qui sortent de la bouche de l'Éternel, aucune des paroles que Dieu va prononcer, Samuel ne va les prendre à la légère. Et ça, ça devrait être un enseignement pour nous. Effectivement, lorsque le Seigneur parle, un peu à l'instar de Paul et puis de Barnabas, ou Silas plutôt, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. On aimerait tous qu'il y ait ce genre d'oracle miraculeux qui tombe du ciel. Et par rapport à ce genre de paroles, effectivement, on se tient en garde. On se tient à l'affût et puis on se soumet à ce genre de paroles. Mais qu'est-ce que je fais avec les autres paroles de l'Éternel? Il est bien beau de se soumettre à un réma, une parole prophétique spontanée de Dieu, mais qu'est-ce que je fais avec le Logos? Qu'est-ce que je fais avec la parole écrite et révélée de Dieu? Qu'est-ce que je fais avec ce que la Bible m'enseigne? La Bible est tout autant parole de Dieu qu'un oracle qui sort de sa bouche de façon spontanée. Quelle est mon attitude par rapport à la parole de Dieu? Est-ce que je suis comme Samuel qui ne laisse tomber à terre aucune de ses paroles? Est-ce que toutes les paroles qui sont mentionnées dans la Bible me sont importantes, me sont précieuses? Ou est-ce qu'il y a des sujets que je laisse de côté? Est-ce que je prends tout simplement ce qui me satisfait, donc toutes les promesses de bénédiction, de prospérité, de guérison, de cadeaux, de richesses et autres, de délivrance, de secours, toutes ces promesses-là me plaisent? Mais qu'est-ce que je fais à ce moment-là des paroles contenues dans la Bible qui viennent à l'encontre de mes penchants personnels, qui viennent me réprimander, qui viennent me réformer, qui viennent exiger de moi des changements et des transformations? Est-ce que je prête tout autant attention à ces paroles, ou se pourrait-il qu'à l'occasion, j'en laisse tomber certaines à terre? Que se passe-t-il lorsqu'il y a une prédication qui est donnée par un frère que je n'apprécie pas trop ou que j'apprécie un peu moins, qui ne me divertit pas autant, qui n'a pas peut-être le pedigree, le curriculum vitae aussi ample qu'un autre prédicateur? Est-ce que je fais face à cette parole comme provenant de Dieu, ou est-ce que je minimise cette parole? J'ai eu l'occasion d'entendre des gens qui disaient à propos de certains pasteurs ou prédicateurs à l'occasion, « Ah ben de lui, de toute manière, j'apprends rien. » Ou « Ce qu'il dit n'est pas intéressant. » Ou « Ce qu'il dit, il ne vient pas me chercher. » Mais si c'est dans l'Église où Dieu nous a établis, si c'est dans l'Église où le Seigneur effectivement nous place pour que nous puissions croître, nous devons comprendre que les prédications, les enseignements, la parole qui nous est donnée est aussi partie prenante de notre alimentation spirituelle. Et peut-être que Dieu effectivement permet qu'on ne revienne et qu'on ne revienne et qu'on ne revienne que sur un sujet particulier, même si tu crois l'avoir saisi, tout simplement parce que tu as encore des choses à appliquer de ce passage. Combien de fois on a eu l'occasion chez nous à l'église de Montréal, par moi-même et par l'entremise d'autres personnes, d'étudier le psaume 23. Mais à chaque fois, je me dis, il y a probablement quelque chose que nous n'avons pas encore saisi. Combien de fois, à travers cette année, nous avons parlé sur le fait que Jésus est vraiment, vraiment, vraiment présent parmi nous. C'était peut-être parce que nous devions comprendre et vivre en conséquence du fait que Jésus est vraiment présent parmi nous. Combien de fois on a parlé sur le service dans le corps de Christ, et c'était probablement parce que Dieu voulait nous mettre au défi, voulait nous acculer au pied du mur pour nous dire, mon fils, ma fille, quand vas-tu te mettre à me servir? Parfois, effectivement, la parole de Dieu vient nous dire des choses qui nous dérangent. Parfois, le prédicateur qui est utilisé par le Seigneur va dire des choses qui nous dérangent. Est-ce que ces paroles, je les reçois comme paroles de Dieu? Ou je fais le difficile, la fine bouche, je fais l'auditeur oublieux, je fais l'auditeur qui écoute avec parcimonie et qui n'écoute ce qu'il veut entendre, que ce qui lui plaît. Ce faisant, je fais exactement ce que Paul disait, que dans les derniers temps, dans les temps difficiles, dans les temps mauvais, il y aurait des gens qui ne voudraient plus entendre la sainte doctrine, mais qui se donneraient une foule de docteurs qui diraient ce qu'ils ont envie d'entendre. Peut-être que c'est ce que nous faisons régulièrement. Et c'est quelque chose qui est tellement facile avec l'Internet. On se donne une foule de docteurs qui vont dire exactement ce qu'on a envie d'entendre, de la façon dont on a envie de l'entendre, avec les illustrations qu'on a envie d'entendre. Et quand ce prédicateur va dire quelque chose qui nous convient moins, ce qui vient nous secouer, bien à ce moment-là, on ne l'écoute plus. On peut faire une sélection d'une multitude de prédicateurs qui vont enseigner une multitude de choses, mais on ne peut n'écouter que ce qu'on a envie d'entendre. Lorsque je viens à l'Église, dans l'Église où Dieu m'a établi, dans l'Église où Dieu m'a enraciné, et que je reçois l'enseignement comme étant la nourriture pour la famille spirituelle à laquelle j'appartiens, à ce moment-là, je dois accepter. C'est un peu comme lorsque j'habitais chez mes parents, étant enfant et adolescent, je n'étais pas celui qui choisissait le menu, c'était mes parents qui choisissaient le menu. C'est eux qui choisissaient les aliments qui allaient composer nos repas, en essayant de pourvoir pour nous les aliments qui seraient les plus appropriés, les plus diversifiés, pour que nous soyons, pour que ma sœur et moi, en tant qu'enfants et adolescents, on puisse recevoir la nourriture la plus équilibrée qui soit. Si on m'avait demandé probablement à l'époque ce que je voulais manger, j'aurais probablement choisi des hamburgers à longueur d'année. Bon, il y a un président américain qui ne mangeait que des hamburgers et qui ne buvait que du soda à longueur de journée, mais c'est pas une bonne alimentation. Son exemple n'est pas le bon. Moi, mes parents me donnaient une nourriture variée pour que je puisse bien me développer, pour que je puisse bien travailler à l'école, pour que je puisse avoir les forces nécessaires. La nourriture se trouve à la maison. L'alimentation, l'hygiène alimentaire se développe à la maison. Dans le monde spirituel, c'est la même chose. Mais certains d'entre nous, on devient bec fin, on devient difficile et on n'accepte plus la nourriture de la maison. On veut celle de chez le voisin. On veut se nourrir comme dans la maison d'à côté. Mais la maison d'à côté à son régime alimentaire propre à elle. Et nous, dans la maison locale, nous avons notre propre nourriture locale et notre propre alimentation locale et notre propre hygiène locale, hygiène alimentaire bien entendu. Et je dois, face à cela, recevoir toutes ces paroles comme venant de Dieu. Sinon, je les laisse tomber à terre et je fais ce que Paul disait, que dans les derniers temps, les gens se donneront une foule de docteurs qui n'enseigneront que ce qu'ils ont envie d'entendre. Alors, en tant que chrétien, en raison de ma foi, je dois savoir que la parole de Dieu est précieuse et que celle qui nous administre à travers les ministères inhérents à l'Église locale, c'est la nourriture dont j'ai besoin. Troisième point pour aujourd'hui, dans le verset 20, la Bible nous dit « Tout Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba, reconnut que Samuel était établi prophète de l'Éternel. » Reconnaître, c'est le terme yada, Y-A-D-A, reconnaître yada, Y-A-D-A, qui veut dire percevoir, être instruit, avoir connaissance ou prendre connaissance et établir. Israël reconnut que Samuel était établi. Établir, c'est aman, aman, A-M-A-N, qui veut dire confirmer, attester ou à qui une mission est confiée. Donc, confirmer, attester ou à qui, à une personne dont une mission lui est confiée. Qu'est-ce qu'on dit ici? On dit que Israël, donc le peuple, a reconnu, est venu à reconnaître que Samuel avait été établi par l'Éternel comme prophète, prophète de l'Éternel. Reconnaître. Reconnaître donne comme sens qu'il y a une progression. Ça veut dire qu'au début, on ne le reconnaissait pas. Mais avec le temps, avec l'expérience, avec la pratique, il finit par être reconnu. Et ça, c'est quelque chose que régulièrement la personne qui commence à servir refuse comme processus. Elle se dit, j'ai été appelé par l'Éternel, alors acceptez la chose. Non, il est tout à fait acceptable, tout à fait approprié que nous puissions observer, tester et plus tard attester la qualité des fruits qui sont produits par le serviteur. Samuel a accepté que cette reconnaissance d'Israël soit progressive. Malheureusement, bien des jeunes, et quand je parle de jeunes, je ne parle pas d'âge, mais je parle de néophytes, bien de nouveaux serviteurs ratent ce concept-là, se frustrent par le fait que des gens veulent voir des fruits avant d'attester. Lorsqu'on vous dit que tel ou tel acteur est un acteur génial, c'est pas parce que les gens vous disent que c'est un acteur génial que vous lui donnez un trophée, un Oscar ou quelque autre prix. Il faut reconnaître son travail, il faut observer son travail, il faut regarder pour voir effectivement s'il est talentueux ou pas. Et éventuellement, on en vient à la conclusion que cet acteur, effectivement, joue très bien. Lorsque nous devenons serviteurs de Dieu, on reconnaît nos fruits. Il nous faut arriver à démontrer nos fruits, à exposer nos fruits pour que les gens y goûtent, le comparent, voient la pérennité, donc la durabilité de nos fruits, la constance de nos fruits, pour reconnaître qu'effectivement, cette personne est serviteur de Dieu. Il y a des gens qui prophétisent une fois et ils sont prophètes. Mais un prophète prophétise. C'est son ministère. Donc, il le fait régulièrement. Mais la Bible nous dit d'éprouver les prophètes. Comment? En remarquant si la prophétie s'accomplit. La Bible nous enseigne dans l'Ancien Testament, notamment, que pour considérer qu'une prophétie venait vraiment de Dieu, elle doit s'accomplir. Donc, s'il n'y a aucune prophétie qui s'accomplit, le mandat de prophète n'est pas avéré. Si la parole qui est enseignée à l'église de Bérée, notamment dans le Nouveau Testament. On nous dit que les frères de Bérée, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils recevaient toute la parole qui était enseignée, puis ils rentraient chez eux pour étudier et voir si ça concordait avec ce que la parole de Dieu disait. Si les enseignements de Paul et de l'église primitive cadraient avec ce que la parole de Dieu disait. Il nous faut accepter, en raison de notre foi, à l'instar de Samuel, il nous faut accepter que le peuple de Dieu teste et atteste la qualité des fruits que nous produisons. Ça fait partie du service. Que les gens regardent, que les gens goûtent, que les gens testent pour arriver éventuellement à accréditer notre service et à attester que c'est effectivement l'Éternel qui nous utilise. Dernier verset, le verset 21, l'Éternel continuait à apparaître dans Silo, car l'Éternel se révélait à Samuel dans Silo par la parole de l'Éternel. L'Éternel continuait à apparaître dans Silo, car l'Éternel se révélait à Samuel dans Silo par la parole de l'Éternel. En raison de ma foi, je dois veiller à garder intacte, même constamment, à améliorer ma relation avec Dieu. On dit ici que Dieu continuait à apparaître dans Silo, qu'il continuait à se révéler à Samuel. Et j'aime le terme révéler. Révéler encore, c'est une question de progression. On part de l'ignorance totale à une connaissance approfondie. Et dans notre processus avec le Seigneur, ici-bas sur terre, nous allons effectivement de progrès en progrès. Progrès dans ce que nous faisons, mais progrès aussi dans ce que nous comprenons, dans ce que nous saisissons, dans ce que nous recevons de la part de Dieu. Il nous faut être dans cet état où notre relation avec Dieu ne connaisse pas de plateau, de stagnation, mais que nous demeurions dans un élan de progrès constant. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, tu dois être en meilleure relation avec Dieu qu'hier. Mais que forcément, demain, tu dois travailler à être dans une meilleure relation avec le Seigneur que tu ne l'es aujourd'hui ou que tu ne l'étais hier. Nous allons de progrès en progrès dans l'efficacité de notre ministère, mais aussi dans notre intimité avec Dieu, dans notre compréhension du cœur et de la pensée de Dieu, et dans notre attachement à Dieu, et dans notre représentation aussi de Dieu. Rappelons-nous ce verset où Paul va dire « Soyez mes imitateurs comme moi-même je suis imitateur de Christ ». Ça veut dire que Paul regardait Christ et essayait d'imiter qui était Christ, dans le bon sens du terme, non pas pour être une parjure, non pas pour faire semblant, mais il voulait que ses actions correspondent de plus en plus aux actions même de Christ. Il voulait que son cœur corresponde de plus en plus au cœur de Jésus. Et il disait à ceux qui le suivaient, à ceux qui étaient autour de lui, à le regarder être un exemple, il leur disait « Suivez mon exemple comme moi-même je tente de suivre l'exemple de Jésus. » Est-ce que tu peux dire aujourd'hui que tu es un exemple meilleur de Christ que tu ne l'étais il y a 3 mois? Et assurément, si c'est le cas, je t'encourage, mon ami, à être dans 3 mois un encore meilleur exemple de Christ. Alors, qu'avons-nous vu aujourd'hui? 1. En raison de ma foi, je cherche à être constamment en progrès. 2. En raison de ma foi, je sais et je considère toute la parole de Dieu précieuse, non seulement la parole écrite, mais aussi celle qui nous est transmise le dimanche, le mercredi, le vendredi, lors des bénédictions matinales par nos pasteurs respectifs. 3. En raison de ma foi, j'accepte que le peuple de Dieu atteste et atteste la qualité des fruits que je produis. Et quatrièmement, en raison de ma foi, je veille à garder intacte et même constamment à améliorer ma relation avec Dieu. Alors voilà ce qui termine notre passage sur Samuel ou notre étude de Samuel. Prions. Seigneur, aujourd'hui, tu nous interpelles quant au service, mais aussi quant à l'intimité avec toi et quant à la qualité de notre vie spirituelle. Je prie, Seigneur, que nous soyons mis au défi par les paroles qui ont été prononcées ce matin, afin d'être de meilleurs serviteurs, afin d'être de meilleurs témoignages pour toi, afin d'être de meilleurs exemples pour ceux qui nous entourent, afin qu'à travers nos paroles, nos actions, nous puissions effectivement refléter à chaque jour davantage Christ et Christ uniquement. Je prie aussi, Seigneur, que nous acceptions le processus de progrès auquel nous sommes soumis et auquel nous devons nous soumettre, mais aussi que nous acceptions le processus à travers lequel effectivement les gens doivent goûter, regarder, tester, expérimenter nos fruits. Ne prenons pas pour acquis que tu nous as appelés et que nous sommes déjà parfaits. Nous sommes simplement en progression devant toi. Et nous comprenons, Seigneur, que ton peuple doit aussi être nourri de façon adéquate et doit être prudent par rapport à tous ceux qui s'élèvent en se disant prophète, en se disant enseignant, en se disant pasteur, en se disant apôtre ou quelque titre que ce soit. Je prie, Seigneur, que nous soyons comme les enfants de Béré, non pas pour critiquer, non pas pour contredire, mais tout simplement pour attester que la parole qui nous est donnée est effectivement celle qui vient de toi. Que nous ayons cette sagesse d'agir avec précaution, d'agir avec étude, avec apprentissage de ta parole, et dans le but, Seigneur, tout simplement de s'y conformer à chaque jour davantage. Alors merci, Seigneur, pour Samuel, qui depuis sa tendre enfance jusqu'à la fin de ses jours aura été un exemple pour nous tous. Merci pour ce qu'on a fait sortir cette semaine de Samuel, qui nous sert aussi de modèle pour nous aujourd'hui. Alors bénis ma sœur, bénis mon frère, permets-leur de porter un fruit qui est agréable à toi durant cette journée. Permets-leur de s'interroger, de s'auto-évaluer, mais permets-leur aussi d'avoir des gens autour d'eux qui sont là pour aussi les aider dans cette progression. Que ce soit dans l'office de formateur auprès d'eux, que ce soit aussi simplement dans l'office de celui qui teste les fruits que nous apportons. Que ce soit fait, Seigneur, si nous sommes de ceux qui testent les fruits, qu'on puisse le faire avec humilité, avec compassion, et aussi, Seigneur, avec beaucoup de prière pour ceux que tu places au-dessus de nous comme formateurs. Nous t'avons prié dans le précieux, glorieux et majestueux nom de Jésus. Amen. Alors voilà ce que nous avions pour ce matin. On se retrouve demain matin, vendredi, pour notre dernière bénédiction matinale de la semaine. D'ici là, passez une belle journée. Que Dieu vous bénisse. Au revoir tout le monde.